Chapitre 20. Le jour de la résurrection. Dans chacun des évangiles, la résurrection, comme tout le reste, est présentée en accord avec l'objet spécial de l'auteur. Ainsi, Luc, qui place devant nous le Seigneur Jésus dans toute sa perfection en tant que Fils de l'homme, spécifie que Jésus mangea du poisson et d'un rayon de miel, preuve que, ressuscité, il demeurait véritablement un homme. Jean seul, en harmonie avec le but de son évangile qui est de présenter le Fils unique, rapporte les paroles du Seigneur ressuscité selon lesquelles il allait monter vers le Père. Au cours du chapitre, trois scènes défilent devant nous. Premièrement, les versets 1 à 18 rapportent les incidents qui eurent lieu de bonne heure le matin de la résurrection. Marie de Magdala y occupe une place prééminente. Elle représente la condition des disciples à ce moment-là, et apparaît comme l'instrument du Seigneur pour conduire les siens sur le nouveau terrain chrétien. Deuxièmement, les versets 19 à 23 contiennent le récit de l'apparition du Seigneur à ses disciples au soir de ce même jour, quand il leur donna un avant-goût de sa présence et de son administration au milieu de l'assemblée. Troisièmement, dans les versets 24 à 31, nous voyons le Seigneur apparaître aux siens 8 jours plus tard, anticipation sans doute, en image, du résidu juif pieux qui sera introduit dans la bénédiction en un jour futur et formera le commencement de la restauration d'Israël. Versets 1 à 18. Le matin de la résurrection. Citation de l'Écriture. Et le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit. Et elle voit la pierre ôtée du sépulcre. Elle court donc et vient vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. » Pierre donc sortit, et l'autre disciple, et ils s'en allèrent au sépulcre, et ils couraient les deux ensemble. Et l'autre disciple courut en avant plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre, et s'étant baissé, il voit les linges à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre donc, qui le suivait, arrive, et il entra dans le sépulcre, et il voit les linges à terre, et le suaire qui avait été sur sa tête, lequel n'était pas avec les linges, mais plié en un lieu à part. Alors donc, l'autre disciple aussi, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra, et il vit, et crut. Car il ne connaissait pas encore l'Écriture qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Mais Marie se tenait près du sépulcre dehors et pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et elle leur dit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se tourna en arrière, et elle voit Jésus qui était là, et elle ne savait pas que ce fut Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle, s'étant retournée, lui dit en hébreu « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient rapporter aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces choses. Fin de citation. Si d'autres femmes étaient avec Marie de Magdala, comme les évangiles synoptiques sembleraient l'indiquer, elle seule est mise en évidence dans le récit de Jean. Marie avait été autrefois possédée par des démons, mais le Seigneur l'avait délivrée de cette terrible condition. Le cœur attaché à celui qui l'avait libérée, elle avait, avec quelques autres femmes, accompagné le Seigneur, le servant avec dévouement. Luc 8, versets 2 et 3, 23, verset 55, 24, verset 10. Mais il semble que son amour surpassait celui des autres, et lui donne une place prééminente dans cette scène magnifique. Nous apprenons ainsi que Christ apprécie par-dessus toute chose l'affection qui lui est portée. Dans son estimation, l'amour vient avant le service. L'assemblée à Éphèse se distinguait par son travail et son zèle dans le service, mais le Seigneur doit dire « Tu as abandonné ton premier amour ». Beaucoup de service peut s'accompagner d'un manque d'amour, mais on peut difficilement avoir un amour brûlant pour le Seigneur et ne pas être employé à son service. Ainsi, nous allons voir que le Seigneur se sert de cette femme dévouée comme d'un lien entre lui-même et ses disciples. Sans avoir la moindre idée de la résurrection du Seigneur, car apparemment pas un de ses disciples ne s'attendait à ce qu'il ressuscite, Marie est attirée irrésistiblement par son amour vers le lieu où elle avait vu le corps du Seigneur déposé dans le sépulcre. Elle ne trouvait pas de repos dans un monde d'où Christ était absent. Elle vint le matin au sépulcre comme il faisait encore nuit, pour découvrir que la pierre avait été ôtée et que le sépulcre était vide. Dans sa détresse, elle court vers les deux principaux disciples et leur dit « On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. » Manifestement, le sépulcre vide ne constituait pas pour Marie une preuve que le Seigneur était ressuscité. La seule pensée, indigne, qui lui vienne à l'esprit est que des hommes du monde ont été autorisés à ôter le corps du Seigneur. Les deux disciples courent immédiatement au sépulcre. Mais l'Esprit de Dieu a pris soin de consigner que, même si Pierre semble prendre l'initiative, Jean, qui se décrit à 5 reprises comme le disciple que Jésus aimait, court plus vite que celui qui s'était vanté de son amour pour Jésus. Cet incident, insignifiant en apparence, est certainement rapporté pour notre instruction, peut-être pour nous rappeler que l'âme qui se repose dans l'amour de Christ devancera en progrès chrétien ceux qui font grand cas de leur amour pour Christ. Ce fait prend aussi toute sa signification dans un passage qui met en évidence l'amour dévoué de Marie pour Christ. Nous pouvons bien aspirer à l'amour de Marie pour Christ, mais reposons-nous toujours sur l'amour de Christ pour nous. Arrivés au sépulcre, ses deux disciples voient les linges et le suaire pliés en un lieu à part. Des détails donnés uniquement dans l'Évangile selon Jean. Le corps n'avait manifestement pas été enlevé du sépulcre, car alors pourquoi les linges mortuaires auraient-ils été laissés sur place? Un tel fait renforce encore le témoignage à la grande puissance de la glorieuse personne qui, après être sortie du sommeil de la mort, peut poser par terre les habits mortuaires d'une manière calme et ordonnée. Lazare est sorti du tombeau lié des bandes, tandis que le Seigneur les a laissés derrière lui. Devant de telles preuves, les deux disciples comprennent que le Seigneur n'est plus dans le sépulcre. Leur foi cependant est fondée sur la vue. Comme nous le lisons au sujet de Jean, il vit et crut. Il percevait que Jésus s'en était allé, mais il ne connaissait pas encore l'Écriture qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Et ainsi, comme les deux disciples d'Emmaüs, il retourne chez eux. Non seulement les disciples ne possèdent pas l'intelligence divine que donne la parole, mais il leur manque aussi l'affection de cœur pour Christ, qui fait de lui l'objet suprême de l'âme. Pour Marie, il en est bien autrement. Elle aussi manque peut-être d'intelligence, mais elle aime Christ d'un amour exclusif qui ne pense qu'à lui. Elle ne peut trouver ni repos, ni chez soi dans un monde d'où il est absent. Aussi, lisons-nous, Marie se tenait près du sépulcre, dehors, et pleurait. L'amour fait d'elle une femme solitaire, au cœur brisé. Si Christ s'en est allé, tout est perdu pour Marie. Mais remarquons que, dans ce lieu à l'extérieur, elle trouve Christ, et par Christ, elle est amenée dans des relations nouvelles et célestes. Son amour pour Christ la détache de ce monde, et conduite par lui, elle est introduite dans un autre monde. Dans sa solitude, Marie se baisse dans le sépulcre, et elle voit deux anges qui lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Absorbée par la pensée de Christ, elle n'exprime aucune surprise à la vue de ces êtres angéliques, mais déclare, non pas comme elle l'avait dit aux disciples, « On a enlevé le Seigneur », mais « On a enlevé mon Seigneur ». Quoi que d'autres puissent penser de Jésus, Marie dit avec toute la confiance de l'amour, « Il est à moi ». Le Seigneur se plaît à se révéler à une telle âme. Marie, se tournant, voit quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Sans mentionner le nom de celui qu'elle cherche, elle répond : Seigneur, si toi tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai. Le cœur rempli de Christ, elle déduit que tous sauront de qui elle parle. Aussitôt, le Seigneur se révèle par une parole : Marie. Comme si souvent dans cet évangile, le berger appelle sa brebis par son nom, et la brebis écoute sa voix, et, avec une joie immense, le reconnaît comme son maître. Non seulement le Seigneur se plaît à se révéler à une âme attachée à lui, mais il l'introduit aussi dans les secrets de son cœur, et, de plus, peut l'employer à son service. Il lui fait le grand honneur d'être la messagère de ses secrets divins auprès des disciples. Comme certainement les autres disciples à ce moment, Marie est sans doute ignorante, mais son amour est réel, et c'est par l'amour que nous entrons dans la vérité. Aussi, des années plus tard, l'apôtre peut-il prier que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, afin que nous soyons capables de comprendre. Éphésiens 3, versets 17 et 18. Il semblerait ainsi que Marie ait été la première à comprendre les résultats de la résurrection. Représentant les sentiments du résidu juif pieux, elle voudrait s'accrocher à son Seigneur ressuscité, avec la pensée que maintenant qu'il est revenu, non plus dans l'humiliation mais dans la gloire de la résurrection, il va prendre sa place sur la terre comme l'héritier légitime de toute chose. Mais Marie et le résidu doivent apprendre qu'avant les gloires du royaume, Dieu a des gloires encore plus grandes pour Christ et des bénédictions infiniment plus profondes pour son peuple. Aussi le Seigneur peut-il dire : Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Le Seigneur indique ainsi d'abord qu'il ne peut plus être touché ou connu selon la chair, en rapport avec la terre et un royaume terrestre. Il doit être connu dans des relations nouvelles et célestes. Deuxièmement, le Seigneur peut parler de ses disciples comme « mes frères ». Jamais auparavant, il n'avait appelé les disciples ses frères, mais, par sa mort, les ayant sanctifiés, il n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, verset 11. De même que, dans le Cantique des Cantiques, la fiancée peut déclarer « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi ». Ainsi, dans l'amour de son cœur, Marie dit « mon Seigneur ». Et Jésus, dans la grandeur de son amour, peut répondre en appelant les siens « mes frères ». Troisièmement, nous apprenons que les siens sont introduits dans des relations nouvelles et célestes, car le Seigneur parle non seulement de monter et ainsi de quitter la terre pour le ciel, mais de retourner vers une personne, le Père, avec lequel, par son œuvre, il nous met en relation dans sa propre relation. Il peut dire « mon Père » et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Il monte pour nous représenter devant le Père, et nous sommes laissés ici-bas pour le représenter devant le monde. Marie a l'immense privilège d'être employée pour communiquer ses bénédictions nouvelles et célestes aux disciples. Ainsi, une vérité que nous sommes souvent lents à apprendre et rapide à oublier est une fois encore placée devant nous. Le Seigneur se plaît à se servir des faibles et des humbles comme instruments pour accomplir le service le plus élevé. Combien souvent aussi, une grande œuvre de Dieu a commencé par ce qui est petit et faible aux yeux de l'homme. Le christianisme est introduit par un petit enfant couché dans une crèche. Le royaume commence par un grain de moutarde. Et les nouvelles relations célestes sont communiquées par une femme en pleurs. En Marie, nous voyons ce qui est si précieux à Christ, un cœur rempli d'un amour sans partage pour lui. Il peut se révéler à une telle âme, la conduire dans l'intelligence des choses divines et l'employer à son service. La ruine de l'Église responsable, telle qu'elle est présentée dans les sept épîtres de l'Apocalypse, a commencé à Éphèse par un service sans amour pur et s'achève à Laodicée avec l'intelligence sans cœur. La simple intelligence ne donnera jamais de cœur. Cependant, le cœur gagnera sans doute de l'intelligence, car le Seigneur aime communiquer à celui qui est attiré vers lui par l'amour. Nous pouvons acquérir une grande somme d'intelligence dans les choses divines. Mais si celle-ci ne dirige pas nos cœurs vers Christ et ne forme pas Christ en nous, elle ne fera que nourrir la vanité de la chair. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. 1 Corinthiens 8, verset 1. Si l'amour personnel pour lui représentait ce qui avait par-dessus tout l'approbation du Seigneur au début de la période de l'Église, l'amour individuel pour lui demeure ce que le Seigneur recherche à la fin, alors qu'entre nos mains tout a été ruiné par la perte du premier amour. La dernière fois qu'il s'adresse aux siens, au milieu de la ruine, c'est pour nous rappeler son amour et chercher la réponse de notre amour. Ainsi nous l'entendons dire, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, versets 19 et 20. Il ne demande pas quelque grand sacrifice ou service qui soit remarqué du monde ou qui nous exalte aux yeux des hommes, mais il cherche un cœur qui réponde à son amour et qui sera ainsi introduit dans la communion avec lui. À un tel, il pourra ouvrir une porte de service, mais il s'agira d'un service découlant de l'amour. Versets 19 à 23. Citation de l'Écriture. Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient par crainte des Juifs étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, « Paix vous soit !» Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Jésus donc leur dit encore, « Paix vous soit !» Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À quiconque vous remettrez les péchés, ils sont remis. Et à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus. » Fin de citation. Dans la deuxième division du chapitre, nous trouvons le récit d'événements survenus le soir du même jour, quand le Seigneur vient au milieu des siens. Et, par anticipation du nouvel ordre de bénédiction, nous avons une image de l'assemblée et de ses privilèges. Le rassemblement des disciples eut lieu le premier jour de la semaine, appelé plus tard la journée dominicale, Apocalypse 1, verset 10, ou jour du Seigneur, qui est en contraste avec le sabbat des Juifs. C'était le jour où les disciples de l'Église primitive se réunissaient pour rompre le pain, Acte 20, verset 7. En outre, lorsque ces disciples se sont réunis, les portes étaient fermées par crainte des Juifs. Il est évident qu'ils étaient complètement à l'écart de la corruption religieuse de ce jour. Ils constituaient une compagnie séparée. Jésus vint et se tint au milieu de ses disciples assemblés. Il devint leur centre de rassemblement. Bien que, depuis son ascension, il n'apparaisse plus visiblement au milieu des siens, ses paroles demeurent néanmoins vraies. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Ce petit groupe d'hommes pauvres, probablement méconnus du monde qui les environnait, ou, s'ils étaient connus, méprisés et sans valeur, représentaient assurément ce jour-là à Jérusalem la compagnie la plus distinguée, puisque le Seigneur se trouvait au milieu d'eux. Remarquons que le Seigneur vient au milieu d'eux dans son corps glorifié, les portes étant fermées. Et de nouveau, 8 jours après, nous lisons « Jésus vient, les portes étant fermées. » On a relevé qu'il n'est pas dit que les portes s'ouvrirent pour laisser entrer le Seigneur, comme ce fut le cas pour permettre à Pierre de sortir de prison. Acte 12, verset 10. Nous ne devons pas non plus penser à quelque chose de miraculeux, comme ce le serait s'agissant de nos corps actuels. C'était un acte normal pour un corps glorifié, même si nous ne le comprenons pas. Présent au milieu des siens, le Seigneur annonce la paix à ses disciples, puis il leur montre ses mains et son côté, rappelant à leur mémoire, par ses blessures, la grande œuvre par laquelle la paix a été faite. La paix ne peut pas être obtenue par les larmes, les gémissements ou les prières. ni par le jugement de soi ou le renoncement à soi, pas davantage par les confessions ou une restitution. Seul le sang versé à la croix, dont la valeur est acceptée par la foi en sa parole, la donne. S'étant révélé lui-même et ayant annoncé la paix, le Seigneur remplit leur cœur de joie. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous n'aurons des cœurs heureux qu'en détournant les yeux de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent et en contemplant le Seigneur dans sa beauté. Ainsi, les disciples sont préparés pour sortir au service du Seigneur. Il peut leur dire « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ils sont appelés à aller proclamer la grâce de Dieu aux pécheurs, mais ils partent de l'assemblée des saints réunis autour du Seigneur. Afin qu'ils puissent remplir leur mission, le Seigneur souffle en eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Nous savons qu'en réalité l'Esprit Saint n'est pas venu avant la Pentecôte. Ne s'agirait-il pas ici plutôt de la vie nouvelle en résurrection vécue dans la puissance du Saint-Esprit ? Elle semblerait être en contraste avec l'ordre dans la première création, quand Dieu souffla dans les narines d'Adam une respiration de vie, et que l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Maintenant, en résurrection, relativement à l'ordre de la nouvelle création, le Seigneur souffle dans les disciples une vie nouvelle qui doit être vécue dans la puissance de l'Esprit, l'Esprit de vie dans le Christ Jésus, selon que nous lisons en Romains 8, verset 2. De plus, en rapport avec cette nouvelle mission, le Seigneur donne à ses disciples la puissance administrative de pardonner, d'une manière gouvernementale, les péchés. Ainsi, plus tard, nous voyons que des âmes repentantes ont été baptisées en rémission des péchés. Acte 22, verset 16. Tandis que d'autres personnes, telles Simon le magicien et Élimas, ont eu leurs péchés liés sur elles. Acte 8, verset 20 et 13, verset 11. Cela n'a rien à faire avec le pardon éternel, pardon que l'homme ne peut pas donner, ni le baptême assurer. Dieu seul, sur la base du sang précieux, peut accorder le pardon éternel des péchés. Ici, la remise ou la retenue des péchés est en relation avec les voies gouvernementales de Dieu sur la terre. En se soumettant au baptême, Paul fut entièrement séparé de sa vie passée avec tous ses péchés, et fut ainsi reçu parmi les enfants de Dieu comme un homme pardonné. Nous avons par conséquent, en image, l'assemblée formée par une compagnie de croyants attachés à Christ dans l'amour, reconnus comme les enfants de Dieu, représentés devant Dieu par Christ monté en haut, séparés de la corruption religieuse environnante, avec Christ au milieu d'eux comme centre du rassemblement, jouissant de la paix qu'il a faite et envoyés dans son service. Versets 24 à 31. Apparition du Seigneur aux siens 8 jours plus tard. Citation de l'Écriture. Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples donc lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « À moins que je ne voie en ses mains la marque des clous et que je ne mette mon doigt dans la marque des clous et que je ne mette ma main dans son côté, je ne le croirai point ». Et 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, et il se tint au milieu d'eux et dit « Paix vous soit ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas répondit et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Jésus donc fit aussi devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Fin de citation. Dans la dernière scène qui a lieu 8 jours plus tard, Thomas occupe la place principale. Il était absent quand Jésus vint. Toute la valeur et le prix de ce premier rassemblement étaient dus au fait que Jésus vint, et Thomas n'était pas là. Il a manqué la première réunion d'assemblée autour de la personne du Seigneur. Cette deuxième apparition du Seigneur au milieu des siens nous transporte certainement en image au-delà de la période de l'Église jusqu'au dernier jour, lorsqu'il existera de nouveau parmi les Juifs un résidu pieux représenté ici par Thomas. Comme les Juifs, Thomas éprouve de la difficulté à croire sans voir et toucher. Concernant les Juifs au dernier jour, nous lisons que, quand l'Esprit de grâce sera répandu sur eux, ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. Zacharie 12, verset 10. Et ils diront, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Tu es mon Dieu. » Psaume 118, versets 26 à 28. Matthieu 23, verset 39. Ainsi, regardant au Seigneur, Thomas peut dire, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Le Seigneur reconnaît certes la foi de Thomas, mais il ajoute « Bienheureux, ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Telle est, en vérité, la part bénie de ceux qui forment l'assemblée de Christ pendant le temps de son absence. L'apôtre Pierre peut dire « Lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez. Et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. » 1 Pierre 1, verset 8. Dans les deux derniers versets du chapitre, nous lisons que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais qu'il en a été rapporté suffisamment pour répondre au grand but de cet évangile, présenter Jésus, le Fils de Dieu, afin qu'en croyant, nous ayons la vie par son nom.